Une petite question. Est-ce qu'il fait partie de l'étude de la personne humaine au niveau métaphysique de regarder l'exercice de la prudence chez l'homme et chez la femme? Si oui, pourriez-vous nous en donner quelques pistes pour essayer d'approfondir cette étude? C'est sûr que la prudence, je l'étudie en philosophie humaine, en éthique. C'est en éthique que j'étudie l'apparition des vertus, ce que sont ces vertus. Mais j'ai le droit, en métaphysique, de chercher ce qu'est la personne. C'est même une obligation. Comment vit une substance spirituelle, l'âme? Une substance spirituelle, c'est-à-dire une substance capable de tout regarder sous le point de vue de l'être. La prudence, je peux la vivre au niveau prudence, je peux en même temps voir comment l'exercice, je dis bien l'exercice de la prudence est ordonné vers la finalité. Et par le fait même qu'elle est ordonnée vers la finalité, la métaphysique considère la prudence sous cet aspect-là, en tant que la prudence me permet de rassembler toutes mes forces, toutes mes possibilités d'action vers une première finalité, l'amitié, vers une seconde finalité, la contemplation. Alors, une prudence ordonnée à cette finalité, l'amitié ou la contemplation, structure en moi ma personne. Une prudence qui ne serait pas finalisée par l'amitié et la contemplation est une prudence qui regarde les carottes, les pommes de terre, la famille, s'il y a du pain. Il faut une prudence ménagère. Mais c'est évidemment pas la personne. On peut être une excellente cuisinière sans être une personne. On voit tout sous l'angle de la cuisine. Alors évidemment, c'est pas très élevé, mais c'est très bon. C'est ça qui est difficile à voir. C'est que ce point de vue de la personne présuppose tout le reste. Et cependant, donne à tout le reste une nouvelle signification par ma finalité, l'amitié, la contemplation. La contemplation demande d'être traité métaphysiquement. L'amitié me demande d'être traité métaphysiquement. Ce sont les deux sommets de la prudence, jurisprudence me permet, à travers des occupations multiples, des occupations très prenantes, d'être fidèle aux exigences de la contemplation, d'être fidèle aux exigences de l'amitié. Un homme, une femme, qui uniquement exercerait sa prudence sur des moyens du bene vivere. Comment ne pas être en colère dès le matin parce que on n'a pas fait, on rentre dans la cuisine et on s'aperçoit que celui qui aurait dû mettre un peu d'ordre à la fin ne l'a pas fait. Alors, on entre en colère. C'est un manque de prudence, hein, de commencer sa journée par la colère. Mais ça n'a rien à voir avec votre personne. Il y a des gens colériques qui sont des personnes de valeur. On dit que Cardinal Lustiger, dans des colères fort farouches, ça n'enlève rien à sa personne. Ça fait simplement que ceux qui sont auprès de lui puissent prendre suffisamment de recul pour ne pas avoir les éclats. Pour eux, c'est la prudence. Je sais que le patron se met facilement en colère, donc ne le voyons pas à ce moment-là. Voyons-le quand la colère est passée. Ça, c'est la prudence. Celui qui dit au contraire, il est en colère, il faut que ça passe, hein. Il faut qu'il arrive à dépasser ça. Donc je me trouvais là, en poste. Alors, je poserai la question, êtes-vous chargé d'éduquer votre cardinal? Si vous n'êtes pas chargé de l'éduquer, vous n'avez pas grâce d'état. Et donc, votre prudence joue mal. Il faut toujours se demander, je parle au point de vue chrétien, mais même au point de vue philosophique, il faut toujours se demander quelle est la fonction que nous avons exactement dans une communauté comme la vôtre. Donc, la personne doit se former. C'est un milieu merveilleux pour former la personne. Mais vous devez être lucide pour voir dans quel domaine votre personne va se fermer, va se former. Vis-à-vis du patron très colérique, est-ce que c'est votre rôle de le corriger? Ou est-ce que c'est votre rôle d'essayer d'apaiser ses colères? Est-ce que c'est votre rôle de faire que... il comprenne mieux que les décisions qui sont prises dans un état colérique ne signifient pas grand-chose? Ça, c'est un rôle amical. L'ami ne corrige pas toujours son ami. Un ami qui prétend corriger toujours son ami n'est plus l'ami. Il n'est plus l'ami. Il devient le maître, le correcteur, le directeur. Il n'est plus l'ami. Et ça, c'est la prudence qui vous fait comprendre ça. La prudence vous fait comprendre ce que, si on peut dire, point de vue chrétien, ce que Dieu attend de vous dans une vie commune. Qu'est-ce qu'il y a dans cette vie commune? Il y a tel ou tel frère sympathique, ultra sympathique, ça ne se rencontre pas beaucoup. Alors, je veux son amitié. Après avoir beaucoup prié, je comprends que je dois être son ami. Alors, je prends prudemment la tactique qu'il faut pour devenir son ami. Vous voyez, c'est l'homme prudent découvre ses finalités propres. Et après, il prend les moyens. Et il réfléchit là-dessus. Comment pouvoir devenir l'ami de mon frère? Devenir son ami, c'est-à-dire au fond, être là pour l'aider au bon moment, le soutenir. Et je ne dis pas le corriger tout le temps. Tel frère, il est charmant, mais il me corrige tout le temps. Je suis pour lui le petit Davis. Vous n'arriverez jamais à être ami alors. C'est quand même très important. L'ami n'a pas comme fonction première de corriger son ami. Non. Alors, vous voyez, vu de l'extérieur, dire quand même, il pourrait un peu le corriger, puisqu'il l'aime tellement. Ah non, attention, il l'aime tellement, il doit devenir son ami. Et donc, pour devenir son ami, il doit encaisser pas mal de choses. Parce que s'il l'a tout le temps pour le corriger, il ne fera jamais son ami. Et la finalité très très importante, savoir que on n'aborde pas de la même façon un frère en vue de créer une amitié avec lui ou un frère dont on sait qu'on est le frère aîné et qu'on doit un petit peu le surveiller, pas trop mais un petit peu. Bien. La prudence du frère, c'est de recevoir les corrections de ce frère aîné. La prudence de ce frère, c'est de faire des liens d'amitié avec cet autre frère qu'il aime et dont il veut conquérir le cœur, conquérir son intelligence. Et la prudence demande une très grande intelligence des situations. Parce qu'il faut que ces situations soient parfaitement dominées et finalisées. Or, la fin de l'homme, c'est la contemplation. Et l'amitié. Il n'y en a pas 36, il y en a 2. Alors, l'amitié n'est pas une fin nécessaire, c'est du béni vivere. C'est du bien vivre, ça fait un peu d'huile. sont plus faciles à orienter quand il y a une amitié, une véritable amitié. Et cette amitié doit être ordonnée à la contemplation. Vous voyez, n'oubliez pas que cette question de la personne, je suis dans l'ordre de l'exercice. Je ne regarde pas ce qu'est la prudence, ce qu'est l'intelligence, non. Comment mon intelligence prudentielle peut se développer par rapport à la contemplation, se développer par rapport à l'amitié. Ça demande beaucoup de souplesse. Si vous n'avez pas cette souplesse, vous n'arriverez jamais à familiariser le lion. Votre ami, c'est un petit peu un lion. Et on a un peu peur de lui, de recevoir un coup de griffe. Et évidemment, il faut que je sois son ami. Alors il faut là s'approcher de lui et puis lui permettre d'entrer dans une familiarité de douceur. L'amitié est comme ça. Parce que si vous restez toujours en colère, c'est pas commode d'être l'ami de quelqu'un qui est toujours en colère. Pas comme du tout, il faut avoir un désir de l'emmener plus loin, au-delà de l'amitié, dans la contemplation. Et la prudence, elle me donne le sens très aigu de la finalité contemplative, de la finalité amitié. La prudence me fait comprendre qu'il n'y a que deux finalités. Il n'y en a pas 36, il y a deux finalités. Il y a beaucoup d'occupations, mais ces occupations, ça passe. Tandis que là, cette amitié regarde les personnes. Personne visible, l'ami, personne invisible, Dieu. Et c'est ça la prudence. C'est un développement très grand de ce qui est ma fin. Et un sens très profond de ce qui est ma fin, mes deux fins. Alors, les chemins qui conduisent à cette fin, les voies d'accès à cette fin, sont très variées. Ça, et c'est l'intelligence qui nous fait comprendre ça. C'est pas dans un bouquin. Non. Chaque fois que se recrée une amitié, il y a des procédés nouveaux. Vous ne pouvez même pas avoir réalisé une certaine amitié, dire « Ah, maintenant, ça y est, je vais appliquer ça ». Dans plusieurs cas, j'aurai plusieurs amis. Non. Chaque ami est unique. Il n'y a pas de procédé classique pour créer l'amitié. Chaque ami est unique. Et je dois arriver à saisir ce qu'il est comme personne. Puisque l'amitié est au niveau de la personne. réaliser une possibilité de l'aider dans sa propre recherche. Vous voyez, je ne commence pas à lui imposer ce qui me semble important. Quand je veux conquérir le cœur et l'intelligence de quelqu'un, j'essaie de saisir ce qui finalise sa vie, ce qui, au fond, permet à sa vie de faire que beaucoup d'activités sont finalisées. C'est très long, hein. Et de conquérir vraiment un cœur humain. D'avoir suffisamment de patience pour ne pas le heurter et pouvoir coopérer. Il y a toujours une coopération. La coopération n'est pas l'amitié, mais la coopération est une voie vers l'amitié. C'est une disposition. On peut coopérer, alors on peut coopérer de façon très multiple, au point de vue de l'intelligence, au point de vue du cœur, au point de vue de l'habileté, au point de vue... Oui, dans la coopération, on essaie de saisir les faiblesses de l'ami et de coopérer par rapport à ses faiblesses, d'être là au bon moment, au moment où il s'aperçoit que, bah oui, ça n'ira pas parce qu'il est trop faible. Ah, je suis là. Bien. Lui, il ne l'avait pas prévu, mais l'ami l'avait prévu. C'est ça, coopérer. C'est attendre le moment où l'autre connaît sa faiblesse ou ses faiblesses et être là pour l'aider. Parce que ce n'est pas une connaissance spéculative qui permet l'amitié. On peut être très intelligent spéculativement, mais complètement se tromper dans la connaissance amicale. Dans les connaissances amicales, c'est connaître les faiblesses de l'autre et de connaître ses qualités et de pouvoir être là pour l'aider. C'est toujours en coopérant. Je crois qu'on peut dire ça. C'est toujours en coopérant qu'on peut s'approcher le plus facilement d'une personne. En ayant appris, vu sa faiblesse et ses forces, et d'être là pour l'aider. C'est tout un art, hein. Il ne faut pas jouer trop avec cet art. Parce qu'il n'y a rien qui écarterait plus l'ami. Parce que si vous faites sentir que c'est un art, c'est au fond, c'est vous qui voulez dominer votre ami. Et quand vous donnez l'impression de vouloir le dominer, je te connais, c'est comme ça qu'il faut faire. La plupart du temps, l'ami s'en va. Parce qu'il sent quelqu'un qui le tient. Il y a cette humilité, cette pauvreté qui consiste à attendre le bon moment. Et il ne faut pas aller trop vite. Donc vous voyez, le est-ce qu'il fait partie de l'étude de la personne humaine au niveau métaphysique de regarder l'exercice de la prudence? Regardez l'exercice de la prudence pour voir si cet exercice va être victorieux, si cet exercice, au contraire, est trop faible. Et on est là pour aider, pour soutenir. Et ça peut durer que voire très très longtemps. On est là pour inspecter, être tout proche. Pour aider. On se connaît comme ça, d'une façon pratique. Et on se connaît en s'aimant, c'est-à-dire en se rendant service. S'aimer en se rendant service, c'est vraiment s'aimer prudemment. C'est s'aimer avec une très grande prudence. Et on est presque sûr que l'ami, celui qu'on cherche à être notre ami, apprécie ça. C'est impossible de ne pas apprécier celui qui est toujours là, prêt à m'aider, à me soutenir au bon moment. C'est pour ça que la métaphysique, comme elle est au-dessus, elle regarde toute mon activité humaine. Toute mon activité humaine peut être regardée métaphysiquement. Toute mon activité humaine peut être regardée non métaphysiquement. La plupart des hommes, c'est comme ça. Ils font la cuisine. Ils font une cuisine multiple et diverse. Ils ne font pas plus loin ça. Le but direct, que ce soit bien chaud. Que ce soit appétissant. Ils ne cherchent pas le cœur de l'autre. À saisir son cœur et saisir son intelligence. Et c'est justement en saisissant son cœur, sa intelligence, que son activité demande d'être aidé, soutenu, pour simplement l'art culinaire, l'art de la réalité. On n'a pas besoin d'un autre. On arrive très vite à s'en tirer soi-même, d'avoir besoin de personne. Alors à ce moment-là, on est seul et on vit seul. Pour entrer en amitié, il faut donc qu'on vise toujours les deux fins. Contemplation, amitié. Vous ne pouvez pas entrer en amitié avec quelqu'un sans que l'une ou l'autre de ces deux fins soit explicitée. Puisque c'est là où vous touchez la personne, son exercice, et où vous avez toujours la possibilité d'être présent et de dire quelque chose au point de vue cette fin intermédiaire qui est l'amitié ou la contemplation. Et c'est sûr, ce n'est pas toutes les activités humaines qui peuvent être regardées métaphysiquement. Ce n'est pas toutes les activités. Mais quand nous fréquentons des hommes qui cherche la sainteté. On peut être sûr, pour tous ces hommes qui cherchent la sainteté, l'amour de la vérité est quelque chose de grand. Et pour que l'amour de l'amitié puisse se réaliser plus parfaitement, l'amitié est nécessaire aussi. Donc vous voyez, je crois que c'est très important de saisir philosophiquement que la prudence n'intervient dans le point de vue personnel que dans la mesure où il y a une recherche de l'amitié et de la vérité. S'il n'y a pas cette recherche, pas possibilité. Or, la plupart, hein, ut in pluribus, la plupart des hommes et des femmes, hein, hélas, peut-être quand elles sont jeunes, elles ont un certain désir de vérité et d'amitié, mais très vite, étant donné les difficultés, étant donné les obstacles, la dureté de la vie, se paie l'un ou l'autre de ses désirs. Et là, à ce moment-là, il est évident que l'exercice de la prudence devient un exercice extrêmement terne. Je cherche à vivre. Pas plus que ça. J'essaie de vivre. Je gagne suffisamment pour pouvoir vivre. Je ne cherche que ça. À ce moment-là, une vie comme ça, qui se ferme sur elle-même, ne peut pas être transformée par un regard métaphysique. Et là, c'est très important quand même, parce que ça vous fait comprendre ce qu'est ce regard. Vous ne pouvez comprendre l'importance de la prudence pour sa formation humaine, prudentielle, que si justement, grâce à votre prudence, l'amour de la recherche de la vérité et la recherche d'un ami est toujours actuelle. Dans la mesure où il est actuel, vous avez alors une possibilité de recevoir l'aide d'un autre qui est comme vous, désireux d'avoir une vie humaine qui soit une vraie vie humaine. Quand il n'y a plus de désir d'amitié, quand il n'y a plus de recherche de la vérité, il n'y a plus de vie humaine. Et il y a simplement la vie de quelqu'un qui veut manger tous les jours, dormir tous les jours, avoir une camaraderie, pas une amitié, une camaraderie de... On peut s'amuser, quand on a envie de s'amuser, mais rien d'autre. Il n'y a plus de finalité qui me porte. Et quand il n'y a plus ces deux finalités au point de vue prudentiel, l'amitié et la recherche de la vérité, j'échappe complètement au regard métaphysique. le regard métaphysique n'atteint plus. On vit au niveau des pâquerettes. On vit tout simplement pour vivre. Mais la vie humaine, comme vie humaine, n'est pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est hélas très très facilement ce que vous rencontrez. Même chez des chrétiens. Vous voyez des gens qui ont cherché quand ils étaient jeunes. Et puis, c'était trop dur. Alors, on s'est rabattu. Et il y a comme une espèce de désir de retrouver quelque chose de plus profond quand on est un peu plus tard. Les passions sont un peu passées et que on repense dire mais pourquoi suis-je sur la terre? Quelle est ma finalité? Quelle est ma finalité sur la terre? S'il n'y a pas de recherche de vérité, s'il n'y a pas de recherche d'amitié, je crois que là-dessus, il faut être très réaliste. Et c'est pas commode de vivre et de continuer une vie humaine dans un monde qui, de fait, est fatigué. Et où il n'y a plus cet élan. Dans un jeune pays, alors on trouve cet élan. Mais dans un pays ancien, vieux, cette finalité, ces deux finalités sont si facilement rejetées. Et alors à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, au point de vue apostolique, c'est d'aimer ces gens-là pour qu'ils aient une petite expérience de l'amour. Et c'est par l'amour qu'on les réveillera. Ils ne peuvent être réveillés que par l'expérience de l'amour. Une expérience de l'amour par rapport à la recherche de la vérité. Une expérience de l'amour par rapport à l'amitié. Je crois que c'est très important de saisir ça. C'est le problème de la prudence. Hein. C'est vraiment le problème de la prudence. Je ne peux pas vivre sans ces deux finalités. Une recherche de vérité, une recherche d'amitié. S'il y a que l'amitié, on peut. S'il y a que la recherche de la vérité, on peut. Le mieux, c'est qu'il y ait les deux. Et on sait que lorsque les deux sont complètement éteints dans une personne humaine, le plus grand service qu'on peut rendre à cette personne, c'est d'allumer le feu. Braise, on souffle fort dessus. Et puis, l'amour recommence par l'amitié. On est là pour secouer et lui rappeler ça. Constamment, c'est ça que le bon Dieu nous demande, hein. Parce que nous savons bien que s'il n'y a pas cette recherche de la vérité et s'il n'y a pas cette amitié, on n'a plus une vie humaine. Vous voyez, ça c'est la prudence. Il faudrait, il faut en avoir l'évidence. On sait que s'il n'y a pas recherche de vérité, s'il n'y a pas recherche d'amitié, la vie humaine, comme vue humaine, craque. Et on tombe dans une vie médiocre. Son intérêt, son petit intérêt, mais il n'y a plus vraiment de finalité. Donc il n'y a plus d'amour. Parce que c'est la finalité qui maintient l'amour. Et ça, alors, c'est capital. Vous voyez, c'est sûrement une des finalités pour chacun d'entre nous. C'est sûrement une finalité qui s'impose vis-à-vis de toutes les personnes qu'on rencontre, de toutes les personnes qu'on voit. Réveiller ça. Et réveiller en ordonnant une expérience d'une recherche vraie de la vérité de l'amour. C'est, je crois, ce qu'il y a de tout à fait élémentaire dans notre prudence. À ce point de vue-là, la prudence, c'est vraiment une petite sagesse pratique, très très importante dans notre vie. Parce que dans notre vie, la prudence maintient allumé ce désir de vérité, ce désir d'amitié. Alors, si on est chrétien, on le fait par amour pour le Christ, pour la Vierge, mais c'est toujours le même. C'est l'amour de la vérité doit exister encore beaucoup plus chez le chrétien. Et cet amour de la vérité doit se maintenir. Il est ordinairement très fort dans notre jeunesse. Mais il doit se maintenir dans toute notre vie. Il y a toujours quelque chose de spécial qui doit maintenir ça. On sait qu'il y a beaucoup de choses à porter, et toutes ces choses à porter ne sont peut-être pas toujours immédiatement ordonnées à l'amitié, à la recherche de la vérité. Alors, peuvent être des obstacles terribles, mais ce sont des obstacles, pas plus que ça. Ce désir de l'amitié demeure toujours possible. Ce désir de la vérité demeure toujours possible. Il est infini. Alors, c'est ça qu'il faut maintenir au point de vue prudence. C'est quelque chose de capital dans l'exercice de la prudence. Dans un monde où ce désir de vérité, ce désir d'amitié disparaît presque complètement, au niveau du monde, nous devons, c'est notre devoir, de maintenir cette soif de vérité, de maintenir cette soif d'amitié. L'amitié nous permettra, dans notre vie, de maintenir un appel et été concrètement de réaliser cet appel. C'est très important pour nous, ça. L'examen de conscience, pas tellement au noviciat, pas tellement pendant les études, parce que là, il y a la grâce de Dieu, de la jeunesse et de la découverte, mais pour un religieux qui a perdu cette espèce d'éveil, de renouvellement, de reprise tout le temps, de quelque chose de nouveau. L'examen de conscience apostolique doit porter là-dessus. Et éveilleur de la recherche de la vérité. Être éveilleur de l'amitié. De l'amitié et de la charité fraternelle et de l'amitié. C'est ça qu'on doit maintenir dans notre vie tout le temps éveillé. Alors, à ce moment-là, vous voyez, le niveau de notre vie est quelque chose qui nous tient la tête au-dessus de tous les ouragans, de toutes les séductions, de toutes les appels multiples et divers. Il y a quelque chose en nous qui demeure sain. Qui est aussi la sainteté comme fondement. Il n'y a pas de sainteté sans ce désir de vérité, sans cette soif de charité fraternelle. C'est au fond, découvrez ça dans votre prudence et voyez-le pour vous concrètement. Comment ça s'applique? Si vraiment vous avez et vous maintenez cette recherche de la vérité dans des domaines très variés, hein. Domaine de la vérité par rapport à la contemplation, par rapport à la charité fraternelle, est-ce que vraiment je veux partager cette soif de la vérité qui est dans mon cœur, dans mon intelligence, avec tous ceux que je rencontre, que je vois, les réveiller là-dessus, qu'il y a une soif réelle. Chercher la vérité, vérité pratique, vérité toute simple, mais cachée, et vérité métaphysique en termes, parce que nous devons maintenir ce désir de métaphysique. Et ce désir métaphysique, on nous l'a éveillé dans nos études, il doit rester toujours éveillé, parce que nous savons que dans notre vie chrétienne, cette recherche de la vérité, mais c'est constant, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Pour nous, et pour tous ceux qui sont autour de nous. Vous voyez, en ce sens-là, la prudence est vraiment une petite sagesse. La petite sagesse qui nous maintient éveillés. On reste éveillé tant que ce désir de la vérité, tant que ce désir de l'amitié demeure vrai. On est des êtres vivants. Parce que il y a en nous le contact de notre finalité. On ne vit que par ce contact avec la finalité. S'il n'y a plus ce contact de la finalité, et on n'est plus que dans les moyens, très très vite, on cherchera à être astucieux, mais non pas à être prudent. Très très vite, on cherchera à maintenir certaines astuces pour que notre vie ne soit pas trop embêtante, mais il n'y aura plus soif de la vérité. C'est pour ça que je crois que découvrir en nous cette prudence, c'est quelque chose de très beau et de très grand. Elle doit être portée par notre soif de vérité. Elle doit être portée par notre soif de charité fraternelle. Pour que quelque chose qui s'ouvre dans notre cœur et qu'on ne cherche pas que uniquement un bien-vivre personnel, mais on veut un bien-vivre humain, personnel, conquérant pour tous ceux qui sont autour de nous et avec nous.